Chapitre 11. Les suites d'une visite de Chico à Bussy, les échecs de Chico, le bilboquet de Quélus et la sarbacane de Schomberg. Le lendemain de ce jour, ou plutôt de cette nuit, Bussy, vers 9 heures du matin, déjeunait tranquillement avec Remy, qui, en sa qualité de médecin, lui ordonnait des réconfortants. Il causait des événements de la veille, et Remy cherchait à se rappeler les légendes des fresques de la petite église de Sainte-Marie l'Égyptienne. « Dis donc, Remy, lui demanda tout à coup Bussy, ne t'a-t-il pas semblé reconnaître ce gentilhomme qu'on trempait dans une cuve quand nous sommes passés au coin de la rue Coquillère ?»«
Sans doute, monsieur le comte, et même à ce point que depuis ce moment je cherche à me rappeler son nom. »«
Tu ne l'as donc pas reconnu non plus ?»«
Non, il était déjà bien bleu. » »«
J'aurais dû le délivrer, dit Bussy, c'est un devoir entre gens comme il faut de se porter secours contre les manants, mais en vérité, Remy, j'étais trop occupé de mes affaires. »
« Mais si nous ne l'avons pas reconnu, lui dit le Haudouin, il nous a à coup sûr reconnus, nous qui avions notre couleur naturelle, car il m'a semblé qu'il roulait des yeux effroyables et qu'il nous montrait le poing en nous envoyant quelques menaces. »«
Tu es sûr de cela, Remy ?»«
Ah, je réponds des yeux effroyables, mais je suis moins sûr du poing et des menaces, dit le Haudouin, qui connaissait le caractère irascible de Bussy. »
Alors il faudra voir quel est ce gentilhomme, Remy. Je ne puis pas laisser passer ici une pareille injure.
Attendez donc, s'écria le Haudouin, comme s'il fût sorti de l'eau froide ou entré dans l'eau chaude.
Ah, mon Dieu, j'y suis, je le connais.
Comment cela? Je l'ai entendu jurer.
Je crois, mordieu, bien que tout le monde eût juré en pareille situation.
Oui, mais lui, il a juré en allemand.
Bah, il a dit « Gottverdamme ».
Ah, c'est Schomberg, alors.
Ah, lui-même, monsieur le comte, lui-même.
Alors, mon cher Remy, apprête tes onguents.
Pourquoi cela?
Parce qu'il y aura avant peu quelques raccommodages à faire à sa peau ou à la mienne.
Oh, vous ne serez pas si fou que de vous faire tuer, étant en si bonne santé, si heureux, dit Remy en clignant de l'œil.
Dame, voilà déjà une fois que Sainte-Marie l'Égyptienne vous ressuscite, elle pourrait bien se lasser de faire un miracle que le Christ lui-même n'a essayé que 2 fois.
Au contraire, Remy, dit le comte, et tu ne te doutes pas du bonheur qu'il y a, quand on est heureux, à s'en aller jouer sa vie contre celle d'un autre homme. Je t'assure que jamais je ne me suis battu de bon cœur quand j'avais perdu au jeu de grosses sommes, quand j'avais surpris ma maîtresse en faute, ou quand j'avais quelque chose à me reprocher. Mais chaque fois, au contraire, que ma bourse est ronde, mon cœur léger et ma conscience nette, je m'en vais hardi et railleur sur le pré. Là, je suis sûr de ma main, je lis jusqu'au fond des yeux de mon adversaire, je l'écrase de ma chance. Je suis dans la position d'un homme qui joue au passe-dix avec la veine et qui sent le vent de la fortune pousser à lui lors de son antagoniste. Non, c'est alors que je suis brillant, sûr de moi, c'est alors que je me fends à fond.
Ah, je me battrai admirablement bien aujourd'hui, Remy, dit le jeune homme en tendant la main au docteur, car grâce à toi, je suis bien heureux.
Un moment, dit le Haudouin, vous vous priverez cependant, s'il vous plaît, de ce plaisir. Une belle dame de mes amis vous a recommandé à moi et m'a fait jurer de vous garder sain et sauf, sous prétexte que vous lui deviez déjà la vie, et qu'on n'a pas la liberté de disposer de ce qu'on doit.
Bon, Remy, fit Bussy, en se plongeant dans ce vague de la pensée qui permet à l'homme amoureux d'entendre et de voir tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, comme derrière une gaze, au théâtre on voit les objets sous leurs angles et dans les crudités de leurs noms, état délicieux qui est presque un rêve, car tout en suivant de l'âme sa pensée douce et fidèle, on a les sens distraits par la parole ou le geste d'un ami.
« Vous m'appelez Bon Remy, dit le Haudouin, parce que je vous ai fait revoir Madame de Montsoreau, mais m'appellerez-vous encore Bon Remy quand vous allez être séparé d'elle, et malheureusement le jour approche s'il n'est pas arrivé. »
« Plaît-il ? S'écria énergiquement Bussy. « Ne plaisantons pas là-dessus, maître le Haudouin. »
Eh, monsieur, je ne plaisante pas, ne savez-vous point qu'elle part pour l'Anjou, et que moi-même je vais avoir la douleur d'être séparé de mademoiselle Gertrude?
Ah ! Bussy ne put s'empêcher de sourire au prétendu désespoir de Remy. « Tu l'aimes beaucoup ? » demanda-t-il.
« Oh, je crois bien. Et elle donc, si vous saviez comme elle me bat !»«
Et tu te laisses faire ?» Par amour pour la science, elle m'a forcé d'inventer une pommade souveraine pour faire disparaître les bleus.
En ce cas, tu devrais bien envoyer plusieurs pots à Schomberg.
Ne parlons plus de Schomberg, il est convenu que nous le laissons se débarbouiller à sa guise.
Oui, et revenons-en à Madame de Montsoreau, ou plutôt à Diane de Méridor, car tu sais...
Oh mon Dieu, oui, je sais.
Remy, quand partons-nous?
« Ah, voilà ce dont je me doutais. Le plus tard possible, monsieur le comte. »«
Pourquoi cela ?»«
D'abord parce que nous avons à Paris ce cher monsieur d'Anjou, le chef de la communauté, qui s'est mis, hier soir, à ce qu'il m'a semblé, dans de telles affaires qu'il va évidemment avoir besoin de vous. »«
Ensuite ?»«
Ensuite parce que monsieur de Montsoreau, par une bénédiction toute particulière, ne se doute de rien à votre endroit, au moins, » et qu'il se douterait peut-être de quelque chose s'il vous voyait disparaître de Paris en même temps que sa femme, qui n'est point sa femme.
Très bien, que m'importe qu'il s'en doute.
Oh oui, mais cela m'importe beaucoup à moi, mon cher seigneur. Je me charge de raccommoder les coups d'épée reçus en duel, parce que, comme vous tirez de première force, vous ne recevez jamais de coups d'épée bien sérieux, mais je récuse les coups de poignard poussés dans les guet-apens et surtout par les maris jaloux. Ce sont des animaux qui, en pareil cas, tapent fort dur. Voyez plutôt ce pauvre monsieur de Saint-Mégrin, si méchamment mis à mort par notre ami monsieur de Guise.
Que veux-tu, cher ami, s'il est dans ma destinée d'être tué par monsieur de Montsoreau?
Eh bien, il me tuera.
Et puis, 8 jours, 1 mois, 1 an après, madame de Montsoreau épousera son mari... Ce qui fera énormément enrager votre pauvre âme, qui verra cela d'en haut ou d'en bas, et qui ne pourra pas s'y opposer, vu qu'elle n'aura plus de corps.
Ah, tu as raison, Remy, je veux vivre.
Ah, la bonne heure. Mais ce n'est pas le tout que de vivre, croyez-moi, il faut encore suivre mes conseils, être charmant pour le Montsoreau. Il est pour le moment d'une affreuse jalousie contre monsieur le duc d'Anjou, qui, tandis que vous grelottiez la fièvre dans votre lit, se promenait sous les fenêtres de la dame comme un Espagnol à bonne fortune et qui a été reconnu à son oreiller. Faites-lui toutes sortes d'avances à ce bon mari qui ne l'est pas. N'ayez pas même l'air de lui demander ce qu'est devenue sa femme. C'est inutile, puisque vous le savez, et il répandra partout que vous êtes le seul gentilhomme qui possédiez les vertus de Scipion, sobriété et chasteté.
Je crois que tu as raison, dit Bussy. À présent que je ne suis plus jaloux de l'ours, je veux l'apprivoiser.
Oh, ce sera d'un suprême comique. Ah, maintenant, Remy, demande-moi tout ce que tu voudras, tout m'est facile, je suis heureux.
En ce moment, quelqu'un frappa à la porte. Les deux convives firent silence. Qui va là ? Demanda Bussy.
Monseigneur, répondit un page, il y a en bas un gentilhomme qui veut vous parler.
« Me parler à moi, si matin, qui est-ce »«
Un grand monsieur vêtu de velours vert avec des bas roses, une figure un peu risible, mais l'air d'un honnête homme. »«
Ah, pensa tout haut Bussy, serait-ce Schomberg ?»«
Il a dit un grand monsieur,
c'est vrai,
ou le Montsoreau. »
Il a l'air d'un honnête homme. »«
Ah, tu as raison. Remy, ce ne peut être ni l'un ni l'autre. Fais entrer. »
L'homme annoncé parut au bout d'un instant sur le seuil.
« Ah, mon Dieu !» s'écria Bussy en se levant précipitamment à la vue du visiteur, tandis que Remy, en ami discret, se retirait par la porte d'un cabinet.
« Monsieur Chicot !» s'exclama Bussy.
« Lui-même, monsieur le comte !» répondit le Gascon.
Le regard de Bussy s'était fixé sur lui avec cet étonnement qui veut dire en toutes lettres, sans que la bouche ait besoin de prendre le moins du monde par la conversation.
« Monsieur, que venez-vous faire ici ?»
Aussi, sans être autrement interrogé, Chicot répondit d'un ton fort sérieux,
« Monsieur, je viens vous proposer un petit marché. »«
Parlez, monsieur, répliqua Bussy avec surprise,
« que me promettriez-vous si je vous rendais un grand service ?»«
Cela dépend du service, monsieur, répondit assez dédaigneusement Bussy. » Le Gascon feignit de ne point remarquer cet air de dédain. Monsieur, dit Chicot, en s'asseyant et en croisant ses longues jambes l'une sur l'autre, je remarque que vous ne me faites pas l'honneur de m'inviter à m'asseoir. Le rouge monta au visage de Bussy. C'est autant à ajouter encore, dit Chicot, à la récompense qui me reviendra quand je vous aurai rendu le service en question. Bussy ne répondit point. Monsieur, continua Chicot sans se démonter, connaissez-vous la Ligue?
J'en ai fort entendu parler, répondit Bussy, commençant à prêter une certaine attention à ce que lui disait le Gascon.
Eh bien, monsieur, dit Chicot, vous devez savoir en ce cas que c'est une association d'honnêtes chrétiens réunis dans le but de massacrer religieusement leurs voisins les Huguenots. En êtes-vous, monsieur, de la Ligue? Moi, j'en suis.
Mais, monsieur, dites seulement oui ou non.
Permettez-moi de m'étonner, dit Bussy. Je me faisais l'honneur de vous demander si vous étiez de la Ligue. M'avez-vous entendu?
Monsieur Chicot, dit Bussy, comme je n'aime pas les questions dont je ne comprends pas le sens, je vous prie de changer la conversation, et j'attendrai encore quelques minutes accordées à la bienséance pour vous répéter que, n'aimant point les questions, je n'aime naturellement pas les questionneurs.
Fort bien. La bienséance est bienséante, comme dit ce cher monsieur de Montsoreau lorsqu'il est en belle humeur.
À ce nom de Montsoreau que le Gascon prononça sans apparente allusion, Bussy recommença de prêter attention.
Hein, se dit-il tout bas, se douterait-il de quelque chose et m'aurait-il envoyé ce Chicot pour m'espionner?
Puis tout haut, voyons, monsieur Chicot, au fait, vous savez que nous n'avons que quelques minutes.
Optimé, dit Chicot, quelques minutes, c'est beaucoup, et en quelques minutes, on se dit bien des choses.
Je vous dirai donc qu'en effet, j'aurais pu me dispenser de vous questionner, attendu que si vous n'êtes pas de la Sainte Ligue, vous en serez bientôt, indubitablement, puisque monsieur d'Anjou en est.
Monsieur d'Anjou, qui vous a dit cela?
Lui-même, parlant à ma personne, comme disent, ou plutôt comme écrivent, messieurs les gens de loi, comme écrivait, par exemple, ce cher et bon monsieur Nicolas David, ce flambeau du Forum Parisiense, lequel flambeau s'est éteint sans qu'on sache qui a soufflé dessus. Or, vous comprenez bien que, si monsieur le duc d'Anjou est de la Ligue, vous ne pouvez vous dispenser d'en être, vous qui êtes son bras droit. Que diable! La Ligue sait trop bien ce qu'elle fait pour accepter un chef manchot.
Eh bien, monsieur Chicot, après, dit Bussy, d'un ton évidemment plus courtois qu'il n'avait été jusque-là.
Après, reprit Chicot, eh bien, après, si vous en êtes, ou si l'on croit seulement que vous devez en être, on le croira certainement, il vous arrivera à vous ce qui est arrivé à son Altesse royale.
Qu'est-il donc arrivé à son Altesse royale? S'écria Bussy.
Monsieur, dit Chicot, en se relevant et en imitant la pose qu'avait prise Bussy un instant auparavant,
monsieur, je n'aime pas les questions, et si vous me permettez de le dire tout de suite, je n'aime pas les questionneurs.
J'ai donc grand envie de vous laisser faire à vous ce qu'on a fait faire cette nuit à votre maître.
Monsieur Chicot, dit Bussy, avec un sourire qui contenait toutes les excuses qu'un gentilhomme peut faire,
parlez, je vous en supplie. Où est monsieur le duc?
Il est en prison.
Où cela?
Dans sa chambre. Quatre de mes bons amis l'y gardent même à vue.
Monsieur de Schomberg, qui fut teint en bleu hier soir, comme vous savez, puisque vous passiez par là au moment de l'opération.
Monsieur d'Épernon, qui est jaune de la peur qu'il a eue.
Monsieur de Quélus, qui est rouge de colère.
Et monsieur de Maugiron, qui est blanc d'ennui.
C'est fort beau à voir, attendu que comme le duc commence à verdir de peur, nous allons jouir d'un arc-en-ciel complet, nous autres, privilégiés du Louvre.
Ainsi, monsieur Dibussy, vous croyez qu'il y a danger pour ma liberté?
Danger, un instant, monsieur, je suppose même qu'en ce moment on doit ou on devrait être en chemin pour vous arrêter.
Bussy tressaillit. Aimez-vous la Bastille, monsieur de Bussy?
C'est un endroit fort propre aux méditations, et monsieur Laurent Testu, qui en est le gouverneur, fait une cuisine assez agréable à ses pigeonneaux.
On me mettrait à la Bastille, s'écria Bussy.
Ma foi, je dois avoir dans ma poche quelque chose comme un ordre de vous y conduire, monsieur de Bussy. Le voulez-vous voir? Et Chicot tira effectivement des poches de ses choses, dans lesquelles eussent tenu trois cuisses comme la sienne, un ordre du roi, en bonne forme, commandant d'appréhender au corps, partout où il serait, M. Louis de Clermont, seigneur de Bussy d'Amboise. « Rédaction de M. de Quélus, dit Chicot, c'est fort bien écrit. » « Alors, monsieur, s'écria Bussy, touché de l'action de Chicot, vous me rendez véritablement un service. » « Mais je crois que oui, dit le Gascon, êtes-vous de mon avis, monsieur ?»« Monsieur, dit Bussy, je vous en conjure, traitez-moi comme un galant homme. Est-ce pour me nuire en quelque autre rencontre que vous me sauvez aujourd'hui, car vous aimez le roi, et le roi ne m'aime pas ?»« Monsieur le comte, dit Chicot, en se soulevant sur sa chaise et en saluant, je vous sauve pour vous sauver. Maintenant, pensez ce qu'il vous plaira de mon action. » « Mais de grâce, à quoi dois-je attribuer une pareille bienveillance ? Oubliez-vous que je vous ai demandé une récompense ? C'est vrai. Eh bien, ah, monsieur, de grand cœur, vous ferez donc à votre tour ce que je vous demanderai un jour ou l'autre. Foi de Bussy, en tant que la chose sera faisable. Eh bien, voilà qui me suffit, dit Chicot en se levant. Maintenant, montez à cheval et disparaissez. Moi, je porte l'ordre de vous arrêter à qui de droit. » « Vous ne deviez donc pas m'arrêter vous-même ? Allons donc, pour qui me prenez-vous ? Je suis gentilhomme, monsieur. »« Mais j'abandonne mon maître. N'en ayez pas remords, car il vous a déjà abandonné. »« Ah, vous êtes un brave gentilhomme, monsieur Chicot, dit Bussy au Gascon. »« Parbleu, je le sais bien, répliqua celui-ci. » Bussy appela le Haudouin. Le Haudouin, il faut lui rendre cette justice, écoutait à la porte. Il entra aussitôt. « Ah, remis !» s'écria Bussy. « Remis, remis, nos chevaux !»« Ils sont scellés, monseigneur, » répondit tranquillement Remis. « Ah, monsieur, dit Chicot, voilà un jeune homme qui a beaucoup d'esprit. »« Parbleu, » dit Remis, « je le sais bien. » Et Chicot le saluant, il salua Chicot, comme l'eussent fait, 50 ans plus tard, Guillaume Gorin et Gauthier Garguille. Bussy rassembla quelques piles d'écus qu'il fourra dans ses poches et dans celles du Haudouin. Après quoi, saluant Chicot et le remerciant une dernière fois, il s'apprêta à descendre. « Pardon, monsieur, dit Chicot, mais permettez-moi d'assister à votre départ. » Et Chicot suivit Bussy et le Haudouin jusqu'à la petite cour des écuries où, effectivement, deux chevaux attendaient, tout scellés, aux mains du page. « Et où allons-nous ? » fit Remis, en rassemblant négligemment les rênes de son cheval. Mais, fit Bussy, en hésitant ou en paraissant hésiter, que dites-vous de la Normandie, monsieur, dit Chicot, qui regardait faire et examinait les chevaux en connaisseur. Non, répondit Bussy, c'est trop près. Que pensez-vous des Flandres, continua Chicot. C'est trop loin. Je crois, dit Remis, que vous vous décideriez pour l'Anjou, qui est à une distance raisonnable, n'est-ce pas, monsieur le comte? « Oui, va pour l'Anjou, » dit Bussy, en rougissant. « Monsieur, dit Chicot, puisque vous avez fait votre choix et que vous allez partir, à l'instant même, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Pensez à moi dans vos prières. » Et le digne gentilhomme s'en alla, toujours aussi grave et aussi majestueux, en écornant les angles des maisons avec son immense rapière. « Ce que c'est que le destin, cependant, monsieur, dit Remis, « Allons vite, » s'écria Bussy, « et peut-être le rattraperons-nous. »« Ah, monsieur, » dit le Haudouin, « si vous aidez le destin, vous lui ôterez son mérite. » Et ils partirent. On peut dire que Chicot, malgré son apparente froideur, s'en retournait au Louvre avec la joie la plus complète. C'était pour lui une triple satisfaction d'avoir rendu service à un brave homme comme l'était Bussy, d'avoir travaillé à quelque intrigue, d'avoir rendu possible pour le roi un coup d'état que réclamaient les circonstances. En effet, avec la tête et surtout avec le cœur que l'on connaissait à M. de Bussy, avec l'esprit d'association que l'on connaissait à Messieurs de Guise, on risquait fort de voir se lever un jour orageux sur la bonne ville de Paris. Tout ce que le roi avait craint, tout ce que Chicot avait prévu, arriva comme on pouvait s'y attendre. Monsieur de Guise, après avoir reçu le matin chez lui les principaux ligueurs, qui chacun de son côté était venu lui apporter les registres couverts de signatures que nous avons vus ouverts dans les carrefours, aux portes des principales auberges et jusque sur les hôtels des églises, Monsieur de Guise, après avoir promis un chef à la Ligue et avoir fait jurer à chacun de reconnaître le chef que le roi nommerait,
Monsieur de Guise, après avoir conféré avec le cardinal et avec monsieur de Mayenne, était sorti pour se rendre chez monsieur le duc d'Anjou, qu'il avait perdu de vue la veille vers les 10 heures du soir. Chicot se doutait de la visite. Aussi, en sortant de chez Bussy, avait-il été incontinent flâné aux environs de l'hôtel d'Alençon, situé au coin de la rue Hautefeuille et de la rue Saint-André. Il y était depuis un quart d'heure à peine quand il vit déboucher celui qu'il attendait par la rue de la Huchette. Chicot s'effaça à l'angle de la rue du cimetière et le duc de Guise entra à l'hôtel sans l'avoir aperçu. Le duc trouva le premier valet de chambre du prince assez inquiet de n'avoir pas vu revenir son maître, mais il s'était douté de ce qui était arrivé, c'est-à-dire que le duc avait été couché au Louvre. Le duc demanda si, en l'absence du prince, il ne pourrait point parler à Aurilly. Le valet de chambre répondit au duc qu'Aurilly était dans le cabinet de son maître et qu'il avait toute liberté de l'interroger. Le duc passa. Aurilly, en effet, on se le rappelle, joueur de lutte et confident du prince, était de tous les secrets de monsieur le duc d'Anjou et devait savoir mieux que personne où se trouvait son Altesse. Aurilly était pour le moins aussi inquiet que le valet de chambre, et de temps en temps il quittait son luth, sur lequel ses doigts couraient avec distraction, pour se rapprocher de la fenêtre et regarder à travers les vitres si le duc ne revenait pas. 3 fois on avait envoyé au Louvre, et à chaque fois on avait fait répondre que monseigneur, rentré fort tard au palais, dormait encore. Monsieur de Guise s'informa à Aurilly du duc d'Anjou. Aurilly avait été séparé de son maître la veille au coin de la rue de l'Arbre Sec par un groupe qui venait augmenter le rassemblement qui se faisait à la porte de l'hôtellerie de la Belle Étoile, de sorte qu'il était revenu attendre le duc à l'hôtel d'Alençon, ignorant la résolution qu'avait prise son Altesse royale de coucher au Louvre. Le joueur de luth raconta alors au prince Lorrain la triple ambassade qu'il avait envoyée au Louvre et lui transmit la réponse identique qui avait été faite à chacun des 3 messagers. « Il dort à 11 heures, dit le duc, ce n'est guère probable. Le roi lui-même est debout d'ordinaire à 7 heures. Vous devriez aller au Louvre, Aurilly. » « J'y ai bien songé, monseigneur, dit Aurilly, mais je crains que ce prétendu sommeil ne soit une recommandation qu'il a faite au concierge du Louvre et qu'il ne soit en galanterie par la ville. Or, s'il en était ainsi, monseigneur serait peut-être contrarié qu'on le cherchât. » Aurilly, reprit le duc, croyez-moi, monseigneur est un homme trop raisonnable pour être en galanterie un jour comme aujourd'hui. Allez donc au Louvre sans crainte et vous y trouverez monseigneur. J'irai donc, monsieur, puisque vous le désirez, mais que lui dirai-je? Vous lui direz que la convocation au Louvre était pour 2 heures, et qu'il sait bien que nous devions conférer ensemble avant de nous trouver chez le roi. Vous comprenez, Aurilly, ajouta le duc, avec un mouvement de mauvaise humeur assez irrespectueux, que ce n'est point au moment où le roi va nommer un chef à la Ligue qu'il s'agit de dormir. Fort bien, monseigneur, et je prierai son Altesse de venir ici. « Oui, où je l'attends bien impatiemment, lui direz-vous, car convoqué pour 2 heures, beaucoup sont déjà au Louvre, et il n'y a pas un instant à perdre. Moi, pendant ce temps, j'enverrai quérir monsieur de Bussy. »« C'est entendu, monseigneur, mais au cas où je ne trouverai point son Altesse, que ferai-je ? Si vous ne trouvez point son Altesse, Aurilly, n'affectez point de la chercher. Il suffira que vous lui disiez plus tard avec quelles ailes j'ai tenté de la rencontrer. Dans tous les cas, à 2 heures moins un quart, je serai au Louvre. » Aurilly salua le duc et partit. Chicot le vit sortir et devina la cause de sa sortie. Si monsieur le duc de Guise apprenait l'arrestation de monsieur d'Anjou, tout était perdu, ou du moins tout s'embrouillait fort. Et Chicot vit Aurilly remonter la rue de la Huchette pour prendre le pont Saint-Michel. Lui, au contraire, alors descendit la rue Saint-André-des-Arts de toute la vitesse de ses longues jambes et passa la Seine au Bac de Nesle, au moment où Aurilly arrivait à peine en vue du Grand Châtelet. Nous suivrons Aurilly, qui nous conduit sur le théâtre même des événements importants de la journée. Il descendit les quais garnis de bourgeois, ayant tout l'aspect de triomphateur, et gagna le Louvre, qui lui apparut au milieu de toute cette joie parisienne, avec sa plus tranquille et sa plus benoîte apparence. Aurilly savait son monde et connaissait sa cour.
Il causa d'abord avec l'officier de la porte, qui était toujours un personnage considérable pour les chercheurs de nouvelles et les flaireurs de scandales. L'officier de la porte était tout miel. Le roi s'était réveillé de la meilleure humeur du monde. Aurilly passa de l'officier de la porte au concierge. Le concierge passait une revue de serviteurs habillés à neuf et leur distribuait des hallebardes d'un nouveau modèle. Il sourit aux joueurs de lutte, répondit à ses commentaires sur la pluie et le beau temps, ce qui donna à Aurilly la meilleure opinion de l'atmosphère politique. En conséquence, Aurilly passa outre et prit le grand escalier qui conduisait chez le duc en distribuant force salut aux courtisans déjà disséminés par les montées et les antichambres. À la porte de l'appartement de son Altesse, il trouva Chicot assis sur un pliant. Chicot jouait aux échecs tout seul et paraissait absorbé dans une profonde combinaison. Aurilly essaya de passer, mais Chicot, avec ses longues jambes, tenait toute la longueur du palier. Il fut obligé de frapper sur l'épaule du Gascon. « Ah, c'est vous !» dit Chicot. « Pardon, monsieur Aurilly. Que faites-vous donc, monsieur Chicot ?»«
Je joue aux échecs, comme vous voyez. »
« Tout seul ?»«
Oui, j'étudie un coup. Savez-vous jouer aux échecs, monsieur ?»«
À peine. » »«
Oui, je sais, vous êtes musicien, et la musique est un art si difficile que les privilégiés qui se livrent à cet art sont forcés de lui donner tout leur temps et toute leur intelligence. »«
Il paraît que le coup est sérieux ?» demanda en riant Aurilly.
« Oui, c'est mon roi qui m'inquiète. Vous saurez, monsieur Aurilly, qu'aux échecs, le roi est un personnage très niais, très insignifiant, qui n'a pas de volonté, et qui ne peut faire qu'un pas à droite, un pas à gauche, un pas en avant, un pas en arrière, tandis qu'il est entouré d'ennemis très alertes, de cavaliers qui sautent trois cases d'un coup, et d'une foule de pions qui l'entourent, qui le pressent, qui le harcèlent. De sorte que s'il est mal conseillé, ah, dame, en peu de temps, c'est un monarque perdu. Ah, il est vrai qu'il a son fou qui va, qui vient, qui trotte d'un bout de l'échiquier à l'autre, qui a le droit de se mettre devant lui, derrière lui, à côté de lui, mais il n'en est pas moins certain que plus le fou est dévoué à son roi, plus il s'aventure lui-même, monsieur Aurilly, et dans ce moment, je vous avouerai que mon roi et son fou sont dans une situation des plus périlleuses.
« Mais, demanda Aurilly, par quel hasard, monsieur Chicot, êtes-vous venu étudier toutes ces combinaisons à la porte de son Altesse royale ?»«
Parce que j'attends monsieur de Caylus qui est là. »«
Où là ?» demanda Aurilly.
« Mais chez son Altesse. »
Chez son Altesse, monsieur de Caylus, fit avec surprise Aurilly.
Pendant tout ce dialogue, Chicot avait livré passage aux joueurs de lutte, mais de telle façon qu'il avait transporté son établissement dans le corridor et que le messager de monsieur de Guise se trouvait placé maintenant entre lui et la porte d'entrée. Cependant, il hésitait à ouvrir cette porte.
« Mais, dit-il, que fait donc monsieur de Caylus chez monsieur le duc d'Anjou ? Je ne les savais pas si grands amis. »
« Chut !» dit Chicot avec un air de mystère. Et puis, tenant toujours son échiquier entre ses deux mains, il découvrit une courbe avec sa longue personne, de sorte que, sans que ses pieds quittassent leur place, ses lèvres arrivèrent à l'oreille d'Aurilly. « Il vient demander pardon à son Altesse royale, dit-il, pour une petite querelle qu'ils eurent hier.
« En vérité, dit Aurilly, c'est le roi qui a exigé cela. Vous savez dans quels excellents termes les deux frères sont en ce moment. Le roi n'a pas voulu souffrir une impertinence de Caylus, et Caylus a reçu l'ordre de s'humilier.
« Vraiment ?
Ah, monsieur d'Aurilly, dit Chicot, je crois que véritablement nous entrons dans l'âge d'or. Le Louvre va devenir l'Arcadie, et les deux frères Arcadet Sambo.
Pardon, monsieur Aurilly, j'oublie toujours que vous êtes musicien. »
Aurilly sourit et passa dans l'antichambre en ouvrant la porte assez grande pour que Chicot pût échanger un coup d'œil des plus significatifs avec Caylus, qui d'ailleurs était probablement prévenu à l'avance. Chicot reprit alors ses combinaisons palamédiques en gourmant dans son roi, non pas plus durement peut-être que ne l'eût mérité un souverain en chair et en os, mais plus durement, certes, que ne méritait un innocent morceau d'ivoire. Aurilly, une fois entré dans l'antichambre, fut salué très courtoisement par Caylus,
entre les mains de qui un superbe bilboquet d'ébène enjolivé d'incrustations d'ivoire faisait de rapides évolutions. « Bravo, monsieur de Caylus, » dit Aurilly, en voyant le jeune homme accomplir un coup difficile, « bravo !»« Ah, mon cher monsieur Aurilly, » dit Caylus, « quand jouerai-je du bilboquet comme vous jouez du luth ?»« Quand vous aurez étudié autant de jours votre joujou, » dit Aurilly un peu piqué, « que j'ai mis, moi, d'années à étudier mon instrument. Mais où est donc mon seigneur? Ne lui parliez-vous pas ce matin, monsieur ?» « Ah, j'ai en effet audience de lui, mon cher Aurilly, mais Schomberg a le pas sur moi. »« Ah, monsieur de Schomberg aussi, » dit le joueur de luth avec une nouvelle surprise. « Oh, mon Dieu, oui, c'est le roi qui règle cela, ainsi. Il est là, dans la salle à manger. Entrez donc, monsieur d'Aurilly, faites-moi le plaisir de rappeler au prince que nous attendons. » Aurilly ouvrit la seconde porte et aperçut Schomberg, couché plutôt qu'assis, sur un large escabeau tout rembourré de plumes. Schomberg, ainsi renversé, visait avec une sarbacane à faire passer dans un anneau d'or suspendu au plafond par un fil de soie de petites boules de terre parfumée, dont il avait ample provision dans sa gibecière et qu'un chien favori rapportait toutes les fois qu'elle ne s'était pas brisée contre la muraille. « Quoi ? » s'écria Aurilly, « chez monseigneur, un pareil exercice ? Ah, monsieur de Schomberg !»« Ah, guten Morgen, monsieur Aurilly !» dit Schomberg, en interrompant le cours de son jeu d'adresse. « Ah, vous voyez, je tue le temps en attendant mon audience. »« Mais où est donc monseigneur ?» demanda Aurilly. « Chut, monseigneur est occupé dans ce moment à pardonner à d'Épernon et à Maugiron, mais... « Ne voulez-vous point entrer, vous qui jouissez de toutes les familiarités près du prince ?»« Peut-être y a-t-il indiscrétion ?» demanda le musicien. « Ah, pas le moins du monde, au contraire, vous le trouverez dans son cabinet de peinture. Entrez, monsieur Aurilly, entrez !» Et il poussa Aurilly par les épaules dans la pièce voisine, où le musicien ébahi aperçut tout d'abord d'Épernon occupé devant un miroir à se raidir les moustaches avec de la gomme, tandis que Maugiron, assis près de la fenêtre, découpait des gravures, près desquelles les bas-reliefs du temple de Vénus Aphrodite Tagnide ou les peintures de la piscine de Tibère à Capré pouvaient passer pour des images de sainteté. Le duc, sans épée, se tenait dans un fauteuil entre ces deux hommes, qui ne le regardaient que pour surveiller ses mouvements et qui ne lui parlaient que pour lui faire entendre des paroles désagréables. En voyant Aurilly, il voulut s'élancer au-devant de lui. « Tout doux, monseigneur, » dit Maugiron, « vous marchez sur mes images. »« Mon Dieu, » s'écria le musicien, « que vois-je là? On insulte mon maître. »« Ah, ce cher Aurilly, » dit d'Épernon, tout en continuant de cambrer ses moustaches, « comment va-t-il? Très bien, car il me paraît un peu rouge. » « Faites-moi donc l'amitié, monsieur le musicien, de m'apporter votre petite dague, s'il vous plaît, » dit Maugiron. Hein, « Messieurs, messieurs, » dit Aurilly, « ne vous rappelez-vous donc plus où vous êtes ?»« si fait, mon cher Orphée, » dit d'Épernon, « voilà pourquoi mon ami vous demande votre poignard. Vous voyez bien que monsieur le duc n'en a pas. » « Aurilly, » dit le duc avec une voix pleine de douleur et de rage, « ne devines-tu pas que je suis prisonnier ?»« Prisonnier de qui ?» De mon frère. N'aurais-tu donc pas dû le comprendre en voyant quels sont mes geôliers ? Aurilly poussa un cri de surprise. « Oh, si je m'en étais douté, » dit-il. « Vous eussiez pris votre luth pour distraire son Altesse, cher monsieur Aurilly, » dit une voix railleuse, « mais j'y ai songé, je l'ai envoyé prendre et le voici. » Et Chicot tendit effectivement son luth au pauvre musicien. Derrière Chicot, on pouvait voir Caylus et Schomberg qui bâillaient à se démonter la mâchoire. « Et cette partie d'échecs, Chicot ?» demanda d'Épernon. « Ah oui, c'est vrai, » dit Caylus. « Ah, messieurs, je crois que mon fou sauvera son roi. Mais, morbleu, ce ne sera pas sans peine. Allons, monsieur Aurilly, donnez-moi votre poignard en échange de ce luth troc pour troc. » Le musicien, consterné, obéit et alla s'asseoir sur un coussin au pied de son maître. « Et voilà déjà un dans la ratière, » dit Caylus. « Passons aux autres. » Et sur ces mots qui donnaient à Aurilly l'explication des scènes précédentes, Caylus retourna prendre son poste dans l'antichambre en priant seulement Schomberg de changer sa sarbacane contre son bilboquet.
Ah, c'est juste, dit Chico, il faut varier ses plaisirs. Moi, pour varier les miens, je vais signer la ligue. Et il referma la porte, laissant la société de Son Altesse Royale augmenter du pauvre joueur de lutte.